Je suis équipé. Je vous invite à lire dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. À partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaire de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Amen. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce passage de 1 Thessaloniciens? Il faut savoir que l'église de Thessalonique a été fondée par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire et que c'était une église qui est née, on peut dire, au sein de la persécution. Paul avait été à Philippe et à Philippe, c'est là qu'il était enchaîné. Il avait des entraves aux pieds, aux mains. Nous pouvons lire ça dans Acte 17, je pense. Acte 16, 17. Paul et Silas étaient dans cette prison humide. Et là, au lieu de se plaindre, ils louaient le Seigneur. Et la suite, nous connaissons, il y a eu un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouverte, et alors le geôlier, qui avait peur qu'on dise que c'était à cause de lui que les prisonniers se sont enfuis, voulait se suicider. Mais Paul disait, ne crains pas, nous sommes là. Et là, quand le geôlier demandait, que faut-il faire pour être sauvé? Et Paul leur avait dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et là, donc, Paul avait fondé une église à Philippe. De Philippe, il est allé en Thessalonique. À Thessalonique, il a été chassé. Il est allé en Bérée. À Bérée, on l'a à nouveau persécuté. Et donc, il a atterri à Athènes. Et c'est à Athènes qu'il écrit cette lettre. Aux chrétiens de Thessalonique. Et il s'inquiétait pour cette jeune église qu'il venait d'à peine fonder et il n'avait pas eu assez de temps, selon lui, pour vraiment les fonder dans la parole de Dieu. Et il s'inquiétait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils spirituel et collaborateur, Timothée, pour prendre des nouvelles. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils sont toujours dans la foi? Et là, heureusement pour lui, Timothée est revenu avec de bonnes nouvelles, disant que, eh bien, les Thessaloniciens étaient fermes dans la foi, et on peut lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 4, il dit, nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisi, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas, besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Et là, donc, Paul était tellement content et d'apprendre que non seulement les Thessaloniciens persévéraient, mais ils avaient une telle conduite que c'était devenu un modèle pour toute la Macédoine et l'Achaïe. Et Paul se réjouissait de cela. Et donc, Timothée est revenu avec de bonnes nouvelles et ensuite avec quelques questions qu'avaient les Thessaloniciens. Et Paul va écrire cette lettre pour leur exprimer tout son amour, disant que s'il était parti précipitamment, c'était pas parce qu'il ne les aimait pas, mais qu'il les aime. Et quand on lit le chapitre 2, il parle d'un amour comme d'un père et aussi de l'amour comme d'une mère, l'amour comme d'un frère, et vraiment qu'il les chérit de tout son cœur, et que vraiment il a le désir d'aller les voir, et il était content d'apprendre que ces chrétiens voulaient aussi le revoir avec le même désir intense. Et ils avaient quelques questions pour Paul par rapport à leur bien-aimé, eh bien qui était mort malheureusement à cause de cette persécution. Que va-t-il leur arriver? Et Paul donc va écrire cette lettre, et surtout à partir du chapitre 4, il va leur exprimer que, eh bien, Christ va revenir, mais ceux qui sont morts, eh bien, ils y vont aussi rencontrer notre Seigneur dans les airs. Amen. Et donc, Paul les encourage par rapport à cette espérance extraordinaire que nous avons. Il leur rappelle que Jésus, c'est vrai, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais il va aussi revenir. Amen. Alors, par rapport à la persécution, il faut savoir que aujourd'hui, je lis ici dans cette petite brochure, l'année 2015, il y a plus de 150 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Plus de 150 millions, ça fait beaucoup. Et de nos jours, il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde. Et il y a 50 pays où l'on parle de persécution, où l'on peut parler de persécution de manière ouverte. 50 pays. Or, les Nations Unies comptent à peu près 195 pays dans le monde. Bon, maintenant, le chiffre n'est pas tout à fait exact en fonction des pays qui sont reconnus ou pas. Mais dans le monde, il y a environ 195 pays. Et donc, sur ces 195 pays, il y a 50 pays où, où il existe la persécution. Et parmi les 50 pays, il y a 35 pays où la persécution est d'origine, où la persécution vient de l'islam radical. Et on a vu ici des persécutions de la part des bouddhistes, des hindouistes, mais principalement on voit que la persécution vient donc de l'islam radical. Mais peu importe, nous voyons que les chrétiens sont très persécutés dans le monde. On peut parler aussi de pays communistes, où il y a le régime communiste, même si le communisme en tant que tel n'existe plus, mais il y a des régimes communistes, comme Cuba, ou le véritable régime communiste qui existe encore, comme la Corée du Nord, où c'est le qui est le numéro un point de vue persécution. Et j'ai été réjoui d'entendre le rapport d'un frère qui, un Coréen, lui qui venait de Corée du Sud, qui disait que malgré la persécution, eh bien l'Église grandissait malgré tout en Corée du Nord. Et il avait l'occasion de visiter ce pays-là. Donc nos frères et sœurs, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Et donc, nous avons le devoir de prier pour ses frères et sœurs, afin qu'ils tiennent ferme dans la foi et dans l'amour. C'est ce que Paul dit ici dans 1 Thessaloniciens 2, donc 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et en lisant ce passage, je pense trouver ici, un modèle de la façon qu'il faut prier pour nos frères et sœurs. Il faut prier afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient réconfortés, et ensuite qu'ils continuent de marcher d'une manière digne de notre Dieu. Amen. Parce que c'est en continuant à marcher d'une manière digne de notre Dieu que les cœurs de leurs persécuteurs vont aussi être touchés. Ils vont se dire, comment se fait-il malgré tout le mal que nous vous avons fait, et pourtant vous avez toujours gardé cet amour, ou peut-être cette paix, cette sérénité. Et je me rappelle une histoire de Richard Rembrandt, cet homme, ce Roumain qui avait connu les prisons communistes. Il avait passé plus de 14 ans dans les prisons communistes. Il a écrit beaucoup de livres. Et dans un de ses livres, il dit qu'il était en prison. Et à un moment donné, il louait le Seigneur, il sautait, il dansait dans la prison. Les autres disaient, mais il est fou celui-là. Et il n'arrivait pas à comprendre comment cet homme, qui était condamné, on peut dire, injustement, et il était là à sauter. Et grâce à au témoignage de cet homme, eh bien, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Donc prions que nos frères soient encouragés, réconfortés, et qu'ils continuent de marcher d'une manière digne de notre Dieu. Prions qu'ils ne se sentent pas seuls. Prions que Dieu leur donne la victoire sur leurs ennemis. Prions que l'Église continue de grandir. Prions que leurs persécuteurs soient touchés et se repentent comme Paul, sur le chemin de Damas. Qu'il grandisse, qu'il soit ferme dans la foi et aussi dans l'amour. Et qu'il ne tombe pas dans le piège de l'adversaire de rendre la haine pour la haine. Vous savez, il y a un passage dans l'Écriture qui me frappe beaucoup. C'est dans Acte 7, la fin du chapitre, lorsqu'on est en train de lapider Étienne. Peut-être que c'est bien qu'on regarde un peu ce passage. Acte 7, la fin du chapitre. On va lire à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Ça, c'était les ennemis d'Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, accueille mon esprit. » Puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Que dit Étienne ? « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Qui est-ce qui était là quand Étienne a fait cette prière? Merci. Saul était là. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Imaginez, si Étienne n'avait pas fait cette prière, il n'y aurait pas d'apôtre Paul. Il n'y aurait pas d'apôtre Paul, mais Étienne a prié, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et donc l'amour d'Étienne a eu une répercussion extraordinaire. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul, mais on ne pense pas à Étienne. Et pourtant, si l'apôtre Paul existe, c'est grâce à cette prière d'Étienne. Et entre parenthèses, j'aimerais vous dire aussi que le Seigneur vous a confié à chacun un ministère. Il ne faut jamais minimiser votre ministère pour le Seigneur. Peut-être que, comme cette petite prière, on pourrait dire, a eu un impact sur la vie d'une personne, et cette personne, par après, va avoir un impact mondial, international. Et peut-être que Dieu vous a confié un petit ministère que vous dites ridicule ou minuscule. Et pourtant, peut-être ce ministère va avoir un impact sur quelqu'un qui après aura un ministère phénoménal. Il y a quelqu'un qui raconte un jour dans le registre d'une église, et c'était à l'époque une grande église, mais après, à un moment donné, cette église avait connu un déclin. Et alors, dans le registre de l'église, on a écrit, ce jour-là, il n'y a eu que cette année-là, il n'y a eu que 3 baptêmes. Et le baptême d'un tel et d'un tel. Et donc, vraiment, c'était vraiment une sorte de lamentation, quoi. Et qui étaient ces 3 individus qui étaient baptisés ce jour-là? Et ça allait être 3 grands hommes qui allaient avoir un ministère à répercussion mondiale. C'était une petite église à frais, donc une église qui avait connu des problèmes, qui était en déclin. Mais malgré tout, cette année-là, ils avaient baptisé 3 personnes. Et ces 3 personnes-là sont devenues de grands hommes de Dieu. Et donc, voilà cette petite prière d'Étienne qui a un impact phénoménal. Prions que nos frères et sœurs ne soient pas aigris ou réagissent par la haine. Ça fait toujours mal quand parfois à la télé, tu es en train, oh, il y a des combattants chrétiens, des combattants islamiques, etc. Et tu entends des groupes chrétiens qui prennent les armes. Tu te dis, mais est-ce que ce sont des chrétiens, ça? Alors, c'est pas vraiment un témoignage. Mais nous savons que notre Seigneur, il peut intervenir. Il peut intervenir s'il le veut. Rappelez-vous, dans l'histoire de, avec Shadrach, Meshach et Abednego, quand le roi leur dit, eh bien, je vais vous jeter, je vais vous jeter dans la fournaise. Ils disent, peu importe. Le Seigneur peut nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, mais sache au roi qu'on ne va pas nous agenouiller devant vos idoles. Remarquez l'humilité de ces hommes en disant, nous acceptons la volonté de Dieu. Et Dieu était venu et les a sauvés. Que le Seigneur délivre ou que le Seigneur permette que ses serviteurs soient morts, il fait malgré tout éclater sa gloire, peu importe ce que lui, il a décidé. Donc prions que nos frères et sœurs gardent l'amour du Seigneur et ne tombent pas dans l'esprit de vengeance. Donc la première chose que j'aimerais dire à partir de ce passage, nous devons prier. La deuxième chose que j'aimerais dire aussi par rapport à la persécution, nous devons profiter du temps de liberté que nous avons ici pour annoncer l'évangile. Amen. Parce que nous ne savons pas combien de temps, nous ici, nous avons cette liberté. Nous pouvons penser que, ah oui, donc on l'a acquise cette liberté pour ce jour. Mais même si chez nous, il n'y a pas de persécution ouverte, mais il peut exister aussi de persécution sournoise. Hein? Des avantages qu'on accorde plus à certaines communautés qu'aux chrétiens. Bien souvent, quand je vais à Paris, j'ai des collègues qui se plaignent souvent que, eh bien, quand il s'agit d'une salle pour une église ou quelque chose de ce genre, eh bien, on ne fait pas de cadeaux aux chrétiens. Mais quand c'est d'autres groupes qui demandent une salle, eh bien, on ne leur met pas autant de bâtons dans les roues. Et donc, profitons de ce moment que nous avons, eh bien, pour annoncer l'évangile. Parce que Jésus nous dit ceci dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc il y a ce moment-là où nous avons cette liberté d'annoncer la parole. Donc il ne faut pas qu'on laisse ce moment passé. Et pour que par après, on regrette, on dise, ah, si seulement, donc, on y avait pensé. La troisième chose que j'aimerais dire aussi, nous devons aussi savoir que toute proportion gardée, pour un chrétien, la persécution est inévitable. Je crois que toute personne qui se donne à fond pour le Seigneur est persécutée. Et ce qui peut parfois étonner, c'est que cette persécution ne vient pas nécessairement de très loin, mais de très proche. Si on peut revenir au passage que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens, et lire attentivement ce que Paul dit dans ce passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14, de fait, vous frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Donc, de même que les Juifs ont été persécutés par les Juifs, eh bien, les Thessaloniciens ont été persécutés par des gens de Thessalonique. Et donc, nous ne devons pas être surpris lorsque nous sommes persécutés. Toujours un Thessalonicien, chapitre 3. On va aller à partir du premier verset. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Et dans une autre épître, Paul dira que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, eh bien, seront persécutés. Donc, nous ne devons pas être surpris si nous sommes persécutés, si nous sommes ridiculisés. Et qui sait, peut-être qu'on peut être ridiculisé pendant un temps, mais après, on va reconnaître quel Seigneur nous servons. À Etterbeek, on a un jeune qui s'est converti récemment et ça fait plaisir de voir comment il est zélé pour le Seigneur. Et vendredi, il racontait, quand il arrive dans sa famille, on lui dit, ah, voici Jésus qui arrive. C'est pour se moquer de lui. Ça me rappelle aussi certains événements que moi-même j'avais vécu aussi en tant que jeune, j'avais à peu près son âge, et quand j'avais accepté le Seigneur, et que je disais que j'allais étudier la théologie, tout le monde dit, mais il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il va... Alors nous devons être armés de savoir que lorsque l'on veut vraiment marcher avec le Seigneur, eh bien il y aura des persécutions. Bien sûr, pas des persécutions comme nous avons vu ici dans le film, mais nous devons savoir que cela existe, et que nous devons être prêts, et nous devons être armés afin de pouvoir persévérer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur peut nous donner non seulement la victoire maintenant, mais c'est qu'il faut savoir aussi que nous avons une espérance extraordinaire. La victoire finale, amen, la victoire finale lors de l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qu'il y a une récompense qui nous attend dans le ciel. Amen. Paul dit, si c'était seulement dans cette vie-là, hein, que nous espérions, eh bien, on serait les plus malheureux des hommes. Hein? Parce que nous avons quitté certaines choses dans ce monde, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, il y a certains de mes camarades qui disaient, moi, pour payer mes études, j'ai vendu ma maison. Ou des choses ainsi. Un autre camarade, il avait une bonne situation dans une banque en Suisse. Il a laissé son emploi de banquier en Suisse pour aller étudier la parole de Dieu. Donc, certaines personnes ont abandonné des choses. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que nous reconnaissons la supériorité de la connaissance de Christ. Paul dit, je considère toutes ces choses que je considérais autrefois comme de la boue. Amen. Les titres honorifiques, les titres universitaires, les richesses du monde, eh bien, je les considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que nous savons que Dieu nous réserve la vie éternelle et qu'il nous réserve un trône. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Amen. Nous sommes des prêtres du roi, en d'autres termes. Et donc, nous avons une espérance. Alors, c'est cette espérance-là qui nous aide à aller de l'avant chaque jour, à nous approcher du Seigneur chaque jour, et à parfois vouloir dire, comme Paul, viens Seigneur Jésus, viens aujourd'hui même. Viens aujourd'hui même que ça cesse toutes ces choses, tout ce mal que nous voyons autour de nous. Viens Seigneur Jésus. Maranatha. Alors, donc comme aujourd'hui c'est le dimanche de l'église persécutée, donc continuons à prier pour nos frères et sœurs. Que Dieu les fortifie, que Dieu les encourage, qu'ils soient fondés dans la foi, qu'ils ne perdent pas cette foi-là, qu'ils soient fondés dans la foi et aussi qu'ils soient fondés dans l'amour, que cet amour-là demeure, qu'ils ne rendent pas le mal par le mal, mais que leurs adversaires soient confondus par justement cette foi et cet amour qu'ils ont malgré l'épreuve, malgré tout ce qu'ils peuvent connaître. Et il y a des témoignages de gens, de persécuteurs qui ont été confondus par vraiment la persévérance des chrétiens dans l'épreuve. Et dans toute l'histoire de l'Église, eh bien, on a vu que l'Église, la véritable Église, eh bien, a toujours connu une croissance au milieu de la persécution. Et savez-vous que là où l'Église grandit le plus rapidement de nos jours, c'est dans les terres persécutées. C'est dans les terres persécutées. Et on peut dire aussi que c'est dans les terres persécutées que parfois on retrouve le plus grand nombre de vrais chrétiens. Parce que parfois en Occident, il y a des gens qui viennent à l'Église pour toutes sortes de raisons. Il faut l'avouer. On peut venir pour se marier, on peut venir pour faire du business, on peut venir pour avoir un carnet d'adresses, on peut venir pour toutes sortes de choses. Mais quand, dans une terre persécutée, on va à l'église, on ne peut pas avoir de mauvaise motivation, hein, parce qu'on va en risquant sa vie. On va en risquant sa vie. Hein? Donc, peut-être que aujourd'hui vous êtes venu à l'église en bravant la pluie, vous pensez que vous êtes héroïque, mais eux, ils sont encore plus héroïques. Ils sont encore plus héroïques. Eux, c'est pas des gouttes d'eau qui les menacent. Parfois, c'est des balles, c'est des épées, c'est, en fait, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Donc, continuez à prier pour nos frères, que le Seigneur les fortifie, les encourage, qu'ils gardent la foi, qu'ils gardent l'amour, et que leur exemple aussi nous serve, nous inspire, nous aussi, là où nous sommes, à continuer à témoigner pour le Seigneur. Amen. Parfois, nous ne témoignons pas parce que nous ne voulons pas être persécutés. Il faut l'avouer aussi. Hein? Parce que quand nous commençons à témoigner réellement, hein, parfois, ça ne fait pas plaisir. Hein? Hein? Mais que le Seigneur nous aide à témoigner pendant qu'il fait encore jour. Et que son Église puisse aller de l'avant. Et que le Seigneur nous aide, quoi qu'il arrive, d'aller de l'avant pour lui. Et d'être solidaire avec nos frères qui souffrent. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour le courage de nos frères qui souffrent, qui bravent toutes sortes de preuves pour te servir, malgré ce qu'ils connaissent et ils persévèrent. Donne-nous aussi de persévérer pour toi, Seigneur Dieu. Donne-nous aussi d'avoir cette même audace, oui, Seigneur, de témoigner pour toi, de ne pas avoir peur de témoigner pour toi. Car tu nous dis dans ta parole, il ne faut pas craindre celui-là qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Celui qu'il faut craindre en réalité, c'est celui qui peut tuer et l'âme et le corps. Seigneur, merci de bénir nos frères, Seigneur, de les fortifier là où ils se trouvent, Seigneur, de les encourager, qu'ils gardent, qu'ils soient fermes dans la foi et dans l'amour, Seigneur Dieu, que cet amour, cette foi soit contagieuse tout autour d'eux, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, que ton Église continue de croître, Seigneur Dieu, à la confusion de leurs ennemis, Seigneur Dieu. Oh Jésus, merci Seigneur. Aucun régime ne peut arrêter ton Église, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Fortifie nos frères, fortifie-les. Manifeste ta gloire au milieu d'eux, qu'ils voient que tu es avec eux. Oui, Seigneur Dieu. Oh, fortifie-les, encourage-les, opère des miracles et des prodiges au milieu d'eux, par eux, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, merci aussi de nous aider à être conscients, Seigneur, à être solidaires de nos frères et sœurs, Seigneur, là où ils se trouvent, Seigneur. Donne-nous aussi d'être bouillants pour toi, Seigneur Dieu, d'être fermes dans l'amour et dans la foi, Seigneur Dieu. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour. Toi le premier, Seigneur, tu as souffert pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as été maltraité. Tu as été humilié, Seigneur. Tu as été abandonné par les tiens. Oui, tu es venu vers les tiens. Les tiens ne t'ont pas reçu, Seigneur. Et pourtant, tu nous aimes, Seigneur Dieu. Oh Jésus, donne-nous, Seigneur Dieu, de donner nos vies pour nos frères, comme toi tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Dieu. Oh, sois loué, sois célébré, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen.
Je vous invite à rester un petit peu dans la prière. Donc, il y a une quinzaine de jours, nous avons eu l'occasion, mon épouse et moi, d'aller au week-end annuel de Porte Verte. On a eu de très forts témoignages. Je vais vous proposer un sujet. Nous avons pu parler avec un pasteur du Liban. Donc, le Liban, c'est au sud de la Syrie. C'est un pays qui est libre. C'est un pasteur. Il disait que c'est bon, avant le conflit, avant le printemps arabe, l'Église elle était un peu sur le déclin. Et puis, comme ils avaient un peu peur d'aller évangéliser, d'aller dans les rues, et Dieu, non seulement Dieu les a préparés. Et le Liban est un pays de 4 millions d'habitants environ, et actuellement, ils ont 1 200 000 réfugiés. Donc ça fait 25% de la population, 25% de bouche à nourrir en plus. Pardon ? Des Syriens, oui, des Syriens. Et ça les a vraiment relancés dans leur foi, parce que Dieu leur a apporté toutes des âmes à convertir. Et bon, je ne vais pas parler de tous les miracles qui se passent là-bas, mais le sujet de prière, c'est aussi une pétition que je vais vous expliquer après. C'est pour l'instant, je crois que c'est Mossoul qui est en train d'être repris par des forces internationales. C'est le futur du Moyen-Orient. Il y a vraiment une église qui est en train de grandir là-bas à travers la persécution des musulmans qui se sont convertis à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans cinq ans pour tous ces chrétiens? Parce que bon, les églises ont été globalement détruites par l'État islamique, parce qu'ils ont tout détruit sur leur passage. Et donc, je vous invite vraiment à ce qu'on prenne un temps de prière pour les réfugiés qui sont pour l'instant dans les camps, et pour leur futur dans la reconstruction de leur pays lorsque la guerre s'achèvera. Mais il y a besoin, Dieu a besoin d'ouvriers pour travailler dans ces pays-là, que ce soit au niveau religieux, au niveau politique, au niveau social, au niveau commercial, vraiment à tout niveau. Si vous pouvez prendre, on peut prendre un temps de prière pour ça. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Tu as permis que le conflit se passe pour agrandir ton royaume. Et au travers les occasions, tu suscites vraiment des conversions, un mouvement de réveil qui est très important là-bas. Et je te demande de bénir les futurs leaders d'église que tu as programmés et prévois toutes choses pour eux. Mets-les en confiance, en sécurité, et permets-leur de marcher par la foi pour que ton royaume avance au Moyen-Orient. Sois béni, mon Dieu et mon roi. Amen.
Merci, Seigneur. Mais fortifie, Seigneur, nos frères et sœurs dans tous ces pays, Seigneur. En Syrie, en Irak en particulier, Seigneur, soutiens-les par ta puissance. Fais-les tenir debout et qu'ils puissent rester et continuer à évangéliser, continuer à tenir bon dans la tempête. Soutiens-les, Père, et partout où les réfugiés se trouvent, au Liban et dans d'autres pays, en Égypte et ailleurs, qu'ils puissent propager l'évangile, ceux qui te connaissent, Seigneur, et que vraiment ton œuvre continue dans tous ces pays. Amen. Et donne-nous de rassembler, Seigneur, aux chrétiens qui tiennent ferme. Que nous, Seigneur, malgré les petites difficultés que nous avons ici, Seigneur, nous puissions tenir ferme et disposer à annoncer par votre évangile de paix autour de nous, de nous discipliner pour que son royaume vienne. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Mais comme le pasteur Martin le signalait, c'est dans la persécution qu'il y a le plus de mouvements de conversion. On a eu l'occasion de discuter avec un historien chrétien, et sur les 10 dernières années, il y a eu il considère une vague de conversion, je pense que c'est lorsque 1000 personnes viennent à Jésus sur une période courte dans une zone géographique. Et sur 10 ans, on a déjà dépassé 60 vagues de conversion de l'islam, alors que du 15e au 18e siècle, il n'y en avait pas eu une seule. Donc il y a vraiment dans ce qui se passe, dans les événements qui se passent dans le monde, il y a vraiment Dieu qui est à l'œuvre à travers l'Église persécutée. Donc la pétition, je vais vous expliquer rapidement. Donc, porte ouverte, donc qui est au service des chrétiens persécutés, a lancé une pétition mondiale à l'attention du secrétaire général des Nations Unies qui va prendre ses fonctions pour le sensibiliser à aux chrétiens du Moyen-Orient, donc Irak, Syrie. Donc c'est de le but ici, c'est simplement de garantir un cadre juridique actuel et à venir en Syrie et en Irak qui promeut et protège l'égalité et l'inaliénabilité des droits de tous les citoyens sans distinction de race, de religion ou de quelque autre statut, de garantir des conditions de vie dignes, d'identifier et d'équiper les responsables ecclésiaux et les organisations confessionnelles pour qu'ils jouent un rôle central et constructif dans la réconciliation et la reconstruction des sociétés syriennes et irakiennes. Voilà, donc c'est une pétition qui vient d'être lancée il y a 15 jours, je crois. Ils ont profité du week-end annuel pour la lancer. Je vous invite donc à, si vous êtes touché, sensibilisé par ce qui se passe au Moyen-Orient, à venir la remplir. Je la mettrai sur la table au fond de l'église. Soyez bénis. Amen.
Merci Jean-Philippe. Donc, pour tous ceux qui veulent signer cette pétition, elle se trouve tout au fond de la salle. Alors, j'aimerais bien, si tu pourrais peut-être reprendre le
PowerPoint des annonces, si tu pourrais. Et après, nous allons laisser Marie-Géraldo refaire un chant. Simplement, je vous donne